France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Reverra-t-on un jour un premier prix du Conservatoire de musique de Paris ou d'ailleurs sur la plus haute marche d'un podium olympique ? C'est peu probable, voire impossible, aujourd'hui que le métier de sportif est devenu un sacerdoce à plein temps. Déjà en 1948, aux Jeux de Londres, quand la pianiste Micheline Ostermeyer décrochait une médaille d'or au poids et une autre au disque, assortie d'une médaille de bronze à la hauteur, concilier le plus haut niveau d'exigence musicale et la pratique du sport à un degré très élevé était difficilement envisageable. Mais comme on va l'entendre, dans l'émission qui va suivre, un numéro de La Légende du Sport que Joël Spindel et Denis Soula consacraient en 1999 à Micheline Ostermeyer, en 1948, rien ne semblait hors de portée à la jeunesse enthousiaste et dynamique de cette personnalité hors norme, winneuse dans l'âme, qui se sentait chez elle tout autant sur un stade que dans une salle de concert. Une championne virtuose qui, à 75 ans, avec une bonne humeur communicative et un brin de nostalgie, se souvenait de l'ambiance fraternelle qui régnait entre les athlètes pendant les premiers Jeux de l'après-guerre, auxquels participer était plus que jamais l'important. La légende du sport, Micheline Ostermeyer, première diffusion sur Radio Bleu, le 4 avril 1999.
La légende du sport, Denis Soula, Joël Spindel.
Je me suis remise dans le sautoir gonflé à bloc et pof, j'ai sorti 1m2+, même peut-être 1m50.
Dans la longue histoire du sport français, il y a beaucoup d'athlètes dont les exploits forcent le respect et l'admiration. Parmi ces sportifs d'exception, il y a une femme, née dans les années 20, pour qui le sport était l'aimable récréation de ses exercices de piano.
Premier prix de conservatoire de Paris, Micheline Ostermeyer est à la fois insouciante et téméraire, une perfectionniste et la première étonnée de sa propre réussite. Elle est l'incarnation de cette génération de jeunes gens qui ont rebâti un monde en ruine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À peine consciente d'être une légende vivante, Micheline Ostermeyer est avant tout une femme qui regarde devant, avec simplicité et envie, une sacrée nature, réjouie et intimidante.
Vous êtes née à quel endroit ?
Je suis née dans le Pas-de-Calais, à Arras.
Et vous faites du sport depuis combien de temps ?
Je suis pas née à Arras, je me suis trompée, après Sainte-Ferrière.
Bon, alors à quel endroit ?
Je suis née à côté de Berck. Et je fais du sport depuis l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai appris à nager à 5-6 ans.
Quel genre d'enfance avez-vous eu ?
Bien, j'ai fait de la musique très tôt.
Micheline Ostermeyer.
J'ai commencé la musique à l'âge de 4 ans. Et mon père m'avait appris mes lettres quand j'avais 2 ans. Mon père s'occupait beaucoup de moi. Il n'était pas musicien, lui. C'est ma mère qui m'a conduite à rentrer au Conservatoire de Paris quand j'avais 13 ans. Mais elle suivait tout de même le sport. Et elle venait, faisait des matchs de basket ou des compétitions d'athlétisme. Elle était là partout, quoi. Mon enfance, c'était une enfance avec des parents formidables.
Vous avez grandi en Afrique du Nord ?
C'était un climat merveilleux. C'était le soleil, la lumière. Et donc, j'ai fait beaucoup de basket, puis d'athlétisme sous le soleil. Quoi. C'est ça qui vous donne envie de continuer. Jusqu'à ce que je revienne à Paris, en 1945. Mais là, j'étais tellement mordu que j'ai continué, malgré tout, prendre le métro, aller sous la pluie. J'ai continué à faire de l'athlétisme.
Vous avez commencé l'athlétisme assez tard, hein, vers 18 ans ?
Oui, c'est ça, oui. Quand j'étais gamine, je participais toujours à des courses pendant les vacances ou partout où je pouvais, parce que ça m'amusait beaucoup, je gagnais tout le temps. Mais entre 7 et 9 ans, j'ai été tout de même en classe avec des garçons et j'étais la seule fille admise à leur jeu parce que je courais très très vite et même ils voulaient arriver à me battre, il n'y avait pas moyen. Et j'adorais ça, j'adorais courir et c'est toujours agréable de gagner.
Qu'est-ce qui vous a décidé à faire de la compétition ?
Quand je faisais du basket, donc il y avait une piste à côté, il y avait un sautoir, on me faisait sauter, j'aimais bien sauter aussi. Et puis on m'a mis sur les compétitions, et la première fois que j'ai participé en Tunisie, j'ai décroché 5 titres. J'aimais la compétition, mais en plus c'est très amusant de gagner. Ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est d'apprendre un style de saut en hauteur, parce que je sautais en ciseaux d'abord, et puis après j'ai appris le rouleau californien, qui fait passer sur le côté et qui fait sauter plus haut. Mais maintenant, ça a disparu depuis longtemps parce que c'était tout de même très fatigant pour la jambe d'appel qui recevait le corps après l'avoir élevé.
Vous étiez déjà une touche à tout ?
Oh oui, en athlétisme. C'était amusant d'apprendre une nouvelle spécialité. Enfin, il faut essayer de faire tout ce qu'on peut dans la vie. Depuis, j'ai fait du parapente que je n'avais pas fait dans ma jeunesse. Maintenant, je ne peux plus faire de sport. J'ai plus l'âge pour faire des performances. Et c'est faux.
Un esprit sain dans un corps sain, semble-t-il, la dualité des activités de cette jeune sportive étonne déjà les radio-reporters de l'époque. Un document INA.
Est-ce que vous avez donné déjà des récitals de piano ?
Oui, je l'ai donné en Afrique du Nord et en France, et en particulier un à Paris il y a 2 ans. J'espère continuer longtemps.
Et quels sont les compositeurs que vous préférez, mademoiselle ?
J'en aime beaucoup. Et j'aime surtout plutôt des morceaux que des compositeurs. Enfin, j'aime beaucoup Schumann et Bach.
Comment concilie-t-on sport et pratique d'un art comme le piano ?
C'est-à-dire au moment où je faisais vraiment les deux, c'est-à-dire vers 23-24 ans, ben, ce qui comptait, c'était de faire 5 ou 6 heures de piano et d'aller m'entraîner 3 ou 4 fois par semaine pendant 2 heures. Alors comme ça, ça s'est arrangé. Mais jamais plus. Ce qui était indispensable, c'était de faire du piano à fond. Et j'allais m'amuser, me détendre, me reposer et blaguer avec des camarades en allant faire du sport. Bon, et si ça donnait des grandes performances, ben c'est parce que j'étais douée.
Mais quand on vous écoute, vous faisiez du sport comme ça. Ouais, oui, bon, vous arrivez ça, comme... Ouais. Oui, mais enfin, vous avez du piano comme ça. Tout est...
Ah non. Le piano à fond.
Le piano à fond, mais l'athlétisme en dilettante. Vous êtes quand même championne olympique. Bon, on le verra plus tard. Vous allez être championne olympique. Vous aviez déjà un but ou vous faisiez ça vraiment comme ça ?
Pour le plaisir de remuer.
Oui, mais à un moment, vous avez pris conscience que vous aviez de l'or dans les jambes et les bras.
Non, c'était vraiment un plaisir, même une passion. Puis c'était sympathique d'être avec des camarades, parce que la musique, c'est très solitaire.
Quand vous avez commencé à avoir des résultats donc importants et monter dans la hiérarchie, est-ce que vous vous êtes dit « je dois faire un choix » ou alors il était évident que vous alliez exploiter vos dons dans ces deux disciplines ?
Moi, j'ai jamais pensé à faire un choix. Pour moi, être au piano, ça a toujours été l'essentiel de ma vie. Il y a eu un choix progressif, c'est-à-dire que j'ai dû abandonner d'autres sports que je faisais aussi, de nager ou de faire du tennis. Progressivement, l'athlétisme a pris la place des autres sports. Mais c'est le seul choix que j'ai fait de ce côté-là.
Vos vrais débuts en compétition, ce sont les championnats de France à Bordeaux en 1945.
Oui, je crois que j'avais déjà battu le record de France du lancer de poids à Tunis, mais ça n'avait même pas été inscrit à la fédération parce qu'il n'y avait pas de correspondance entre l'Afrique du Nord et la France à ce moment-là. Donc quand je suis arrivée à Paris en 1945 pour reprendre mes études au conservatoire de Paris, et je suis allée à la fédération d'athlétisme où on ne connaissait pas, on ne savait pas ce que j'avais fait, et ils n'ont pas pris ça très au sérieux. Enfin, ils n'ont pas dit que je racontais des blagues, mais une pianiste qui dit qu'elle lance le poids. Bon, c'était pas très tellement répandu, c'est-à-dire que c'est toujours pas. Donc j'ai parlé du poids d'abord parce que j'ai battu le record de France. Ensuite, j'ai parlé de la hauteur parce que mes performances égalaient celles des championnats de France. Alors, c'était de plus en plus souriant parce que le poids et la hauteur, ça ne va pas ensemble. Alors, du coup, j'ai même posé dire que je courais très vite parce que je voyais qu'ils allaient se mettre à ricaner. Donc, on ne s'est pas aperçu que j'étais passionnée par la course. J'ai recouru sérieusement qu'en 48, où j'étais championne de France du 60 mètres, parce que je voulais absolument avoir un titre et puis courir, quoi.
Vous êtes surdouée, on vous découvre à Paris, c'est pour ça que vous êtes recordwoman de France, mais arrive 1948, où il y a les championnats de France quelques mois avant les Jeux Olympiques de Londres, et là, on se dit, bon, elle est douée au poids, elle est douée en hauteur, on va essayer de lui faire un peu de disque. Et là, vous n'avez jamais fait de disque, et vous êtes troisième au championnat de France.
Oui, ils sont mis en tête de m'apprendre à lancer le disque. Et alors, comme il n'y avait pas trop de temps, puisque c'était un mois avant les Jeux, alors ils sont mis à quatre, c'était un peu affolant. J'ai donc été inscrite pour le disque au championnat de France. À ce moment-là, quand je tournais, je me cassais la figure une fois sur deux. Pendant la compétition, les trois premiers jets en tournant, c'était très mauvais. Alors j'ai lancé la dernière fois simplement le bras et comme ça, j'ai un jet qui m'a classé troisième. Grâce à quoi, ils m'ont sélectionné pour être au disque à Londres.
La veille de son départ, Micheline Ostermeyer au micro des journalistes.
Je voudrais d'abord que mademoiselle Micheline Ostermeyer se présente à elle-même. J'aimerais qu'elle me donne son âge, qu'elle me donne sa profession, qu'elle me donne quelques petits détails sur elle-même.
C'est très indiscret. Enfin, je veux tout de même dire que j'ai 25 ans et que je joue du piano.
Oui, je sais que vous avez obtenu, je crois, un premier prix de conservatoire.
Oui, à Paris en 46.
Partir aux Jeux Olympiques, ça représentait quelque chose à l'époque?
Oui, quoi qu'on ne se rendait pas vraiment compte, parce qu'on n'en avait pas vu. Moi, j'avais vu le film des Jeux magnifiques de 1936, mais comme il n'y avait plus eu de Jeux pendant la guerre, je sais s'il y avait autre chose à penser. Donc, j'étais très contente, je voulais aller là-bas, ça je voulais absolument. Et je travaillais très bien pendant tout l'hiver, le lancer de poids et de son hauteur. Le lancer de poids parce que j'étais tout de même dans les favorites.
Comment c'était en Angleterre, à Londres? Quelle était l'ambiance?
Nous étions logés dans un collège de jeunes filles, un collège de sciences domestiques. Et il y avait tout de même la télévision. Ça fait que quand on n'avait pas fini ces compétitions, on n'avait pas le droit de s'en aller, d'aller se balader au stade pour regarder les autres. Il fallait rester se reposer. Mais on regardait donc le jeu à la télévision.
Les Jeux Olympiques de Londres se déroulent du 29 juillet au 14 août 1948. Dans une Europe en pleine reconstruction, l'Angleterre a relevé le défi symbolique d'être le rendez-vous de la jeunesse du monde. 58 nations prêtent le serment olympique sur le stade de Wembley. Le mot humanité balbutie dans les bouches de tous, blessé, convalescent. Il sera le leitmotiv de ces Jeux, qui se présentent plutôt bien pour les Français, dont les chefs de file sont Marcel Hansen, Alex Jany, Ignace Heinrich et Christian Doriola. Ils ne tiendront pas tous la promesse de leur talent, mais à Londres, en 1948, encore une fois, il s'agissait surtout de participer.
Aux Jeux Olympiques qui débutaient le disque féminin la première journée, j'ai fait dès le premier jet un mètre de mieux que ce que j'avais fait au championnat de France. Et à chaque jet, sauf le cinquième, j'ai fait un mètre de plus. Ce qui fait qu'au cinquième jet, bon, je n'avais pas avancé, mais la championne
italienne
attendue, oui, elle n'était finalement qu'à 40 cm de moi. Je me suis remise dans le sautoir gonflé à bloc et pof, j'ai sorti un mètre de plus. Même peut-être 1m50. La compétition était terminée, elle ne pouvait plus lancer, ni ma camarade de l'équipe de France qui a fait troisième. Sans histoire, j'ai été championne olympique. Et...
Vous étiez une gagneuse ?
Ah oui, c'était une gagneuse, c'est ça, oui. Je crois que c'est tout à fait ça, oui.
En pleine finale olympique, vous êtes en pleine phase de progression.
Voilà, c'est ça, exactement. Finalement, j'ai fait 5 mètres de plus que j'avais fait au championnat de France. Hein, tout, mais...
Comme à l'entraînement.
Ouais, comme, mais plus vite qu'à l'entraînement, alors.
C'était comment le podium ?
Ben, c'était la première cérémonie olympique. Ils n'étaient pas du tout rodés, les officiels anglais, pour savoir à quel moment on devait monter sur le podium. Alors, ils m'ont fait monter un moment, et puis parce qu'ils m'ont dit, non, redescendez, c'est trop tôt. Je suis redescendue, puis à ce moment-là, l'hymne a éclaté. Alors, moi, j'étais en bas, puis les autres aussi. Alors, elle a dû crêper à toute vitesse pendant que la Marseillaise éclatait. Et en plus, c'était assez haut. C'était très haut, les podiums, à ce moment-là.
Il fallait une échelle pour monter ?
Non, mais enfin, il fallait bien lever la jambe, parce que c'est très haut. Maintenant, ils sont assez plats. Par contre, pour le poids, ça s'est bien passé, parce que c'était 4 jours après. Donc, ils étaient rodés, mais c'était sous la pluie, alors c'était désagréable. Et on a attendu assez longtemps, sous la pluie. C'était le jour, d'ailleurs, où Ignace Heinrich, notre camarade, était en train de décrocher la médaille d'argent pour le décathlon.
Pour Micheline Ostermeyer, ces Jeux sont loin d'être terminés. La compétition continue.
J'étais un peu fatiguée par l'émotion d'avoir gagné le 10 4 jours avant. Ça m'a coupé les jambes complètement. Le lendemain, je ne suis pas allée m'entraîner. C'était le vendredi que j'ai gagné. Je suis allée le lundi à l'entraînement. Je suis allée voir le médecin qui s'occupait de l'équipe de France en disant ça ne va plus, je suis vidée. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il ne m'a pas donné un truc pour me doper. Il m'a dit de prendre un bain chaud le soir pour bien dormir parce que je ne pouvais plus fermer l'œil. Pour la compétition, donc j'ai fait presque 1 mètre de plus, mais j'ai pas battu mon propre record. Et ce que j'ambitionnais, c'était de battre le record du monde. Alors je l'ai pas eu.
Bon, vous êtes championne olympique quand même.
Bah oui,
c'est pas mal.
J'ai jamais eu de record du monde. Et ben, bon, à ce moment-là, donc c'était à ma portée. Je l'ai battu tout de même à l'entraînement, mais je l'ai pas battu en compétition.
Ensuite, vous allez être troisième du 100 hauteur.
Ça, c'était le dernier jour des Jeux. Et c'est difficile ce jour-là parce qu'il y a le marathon, l'arrivée du marathon. Il y a tous les relais. En plus, il y a beaucoup de cérémonies pour remettre les médailles. Donc des hymnes, il faut s'arrêter tout le temps, se mettre au garde à vous. Et on est très perturbé dans sa concentration. Et d'ailleurs, ça a été très bien pour les Français ce dernier jour parce que ils ont été deuxième au 4x4. Mais en plus, il y a eu des claquages dans le 4x4.
Vous n'avez pas couru le 4x4, non, par hasard ?
Ah non, parce qu'à ce moment-là, les femmes ne couraient pas le 4. Ça.
Nous sommes à la gare des Invalides et nous sommes arrivés au moment précis où, parmi tous ceux qui ont brillé à Londres, ou à Wembley exactement, car il faut rappeler que nous sommes tout de même second sur 62 nations engagées, que par conséquent, c'est un succès extrêmement brillant. Il convient par conséquent de féliciter les athlètes qui nous entourent, qui ne sont malheureusement pas tous ici. À tout seigneur, tout honneur, puisque c'est mademoiselle Micheline Ostermeyer qui a été la plus brillante, elle a remporté 2 médailles d'or et 1 médaille de bronze. C'est à elle que nous allons demander la première des impressions. Ça a l'air de vous ennuyer que je vous le demande d'une façon aussi imprécise. Je vais vous demander quelle impression vous a donné votre victoire au disque, parce que ni vous ni nous, il faut bien le dire, je crois, n'y comptions.
Non, absolument pas, j'ai eu beaucoup de chance.
Ah non, ça, je ne veux pas vous dire de chance, c'est pas une question de chance, c'est évidemment une question de qualité musculaire, mais enfin...
Oui, j'ai lutté naturellement, mais enfin, je n'espérais pas, étant donné ma forme très nouvelle au disque, pouvoir gagner.
Enfin, mademoiselle, je tiens à vous féliciter, parce que sur le plan émotif, vous avez d'abord été la première à nous donner une victoire, et puis après la défaite de tous les gens sur qui nous comptions beaucoup, vous avez été la dernière à nous donner aussi une victoire dont nous avions besoin sur le plan moral, pour nous réconforter un peu, et par conséquent, il convient de vous faire la grande méritante de ces Jeux Olympiques.
Comment vos parents ont-ils perçu votre consécration olympique ?
Ah, ils étaient très surpris, parce que comme j'ai gagné un jour, on n'attendait pas. Ils étaient à Tunis. Et bon, ils savaient que je lançais le 10 ce jour-là. Ils n'ont même pas dû suivre la radio. Peut-être, enfin, ils ont été prévenus par tes voisins. Je dis, vous savez que Micheline avait été championne olympique ? Ah, j'étais complètement heureux. Ils étaient très, très fiers, très, très fiers.
C'était important que des jeunes gens du monde entier se retrouvent dans un esprit de...
Très, très, très important.
C'est les premiers Jeux de l'après-guerre. Il y a une espèce de côté de fraternité universelle, peut-être ?
Oui, quoique, évidemment, les Allemands n'étaient pas là. Et les Japonais non plus. Et puis, finalement, les Russes ne sont pas venus pour des raisons de... administratives ou d'entente sur la charte olympique ou quelque chose comme ça. Alors, ils n'étaient pas là. Je dois dire que c'est pour ça que j'ai gagné tout de même le lancer de poids. Si j'avais été là, j'aurais fait seconde ou troisième. Mais j'aurais peut-être gagné le 10. Non, j'aurais pas gagné le 10 non plus. Non, j'aurais pas été champion de l'Olympique.
Je vais dire ça, vous savez.
Non, parce que... là,
avec des si.
Oui, enfin, elle n'était pas là. Bon, moi, j'étais là.
Exactement.
Ce que je pouvais.
Depuis la finale des Jeux Olympiques, vous avez certainement dû être sollicité énormément.
Pour jouer du piano ?
Oui.
Oui, mais... je ne peux pas travailler en ce moment, pendant que je suis en train de donner des interviews et faire des compétitions. Alors je ne joue plus de piano.
Mais quand allez-vous reprendre le piano alors ?
Eh bien, 15 jours, quand je serai rentrée chez moi tranquillement.
Et chez vous, c'est-à-dire où ?
C'est Tunis, par delà les mers.
Est-ce qu'il y a de la musique dans votre tête pendant que vous êtes en train de faire du sport ?
Ah, c'est une bonne question, parce que autrement, les musiciens ont tout le temps une musique dans la tête, sans arrêt. Et là, j'avoue que j'en avais peut-être, mais je ne l'ai pas remarqué. Non, je ne pense pas qu'il y en avait à ce moment-là, non. Je devais être braqué sur le sport. Mais c'est très intéressant comme question, et parce qu'effectivement, ça aurait pu se trouver, mais je n'ai pas remarqué.
Qu'est-ce que vous a apporté chaque discipline dans la pratique de l'autre ?
C'est la connaissance de ses gestes, la connaissance de soi-même. Mais ça, c'est très important ce que m'a apporté le piano, parce que ça m'avait donné un sens très très précis du geste, la conscience intérieure de la perception nerveuse et musculaire. Et quand je faisais une spécialité nouvelle ou ancienne, j'étais très rapide dans mon apprentissage. Et le sport m'a apporté une décontraction que j'avais avant les compétitions. Je me souviens, au moment des Jeux, avant le lancer de disque, je me suis allongé au moins pendant 2 ou 3 heures au soleil, là, tout à fait détendu, presque endormi, littéralement. J'étais pleinement maîtresse de moi. Donc, de ce côté-là, il y a eu un échange.
Je crois que les Américains vous ont demandé pour aller donner des récitals de piano par-delà les mers, mais alors par-delà l'océan Atlantique cette fois. Est-ce que vous avez répondu oui ?
Naturellement, j'ai répondu oui, je ne suis pas folle.
Alors, quand partirez-vous ?
Je pense partir au mois d'octobre ou de novembre, et puis revenir dans 3 ou 4 mois après.
Comment vos camarades de l'équipe de France percevaient-ils votre différence ?
Je n'ai pas l'impression qu'ils y pensaient. Donc, quand j'étais à Londres, il y avait un piano sur place, hein, alors je jouais souvent pour leur faire plaisir ou bien pour les faire danser, mais autrement, elles n'y pensaient pas du tout. Et par contre, je les embêtais sur le terrain parce que j'étais toujours en tête. Et quand je changeais de spécialité, les autres disaient « Ah, oh, tu vas pas te mettre à faire ça parce que j'avais peur que je les batte. » Alors ça, c'était ça qui comptait pour elles comme différence.
Vous pensez que vous êtes allé au bout de vos possibilités en sport ?
Oh non, pas du tout, pas du tout. Il aurait fallu continuer à m'entraîner. Non, absolument pas. Si j'étais entraîné comme on s'entraîne maintenant, j'aurais fait évidemment beaucoup mieux, mais j'aurais manqué de faire bien d'autres choses.
En vous écoutant, il nous vient à l'esprit l'idée que vous étiez une jeune femme moderne.
Je pense que j'étais moderne dans le sens que je faisais ce que j'avais envie de faire. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans un milieu où, naturellement, on faisait s'épanouir les enfants le plus possible.
Vous êtes consciente d'être à peu près tout ce que peuvent souhaiter que les enfants soient, c'est-à-dire artiste à l'extrême, sportif accompli et femme...
Ben, il y a d'autres choses à faire, mais ça, c'était 2 bonnes choses à faire. Et c'est bien d'avoir pu faire les deux. Parce que, donc, justement, quelquefois, en faisant de la musique, on est tellement coincé qu'on n'arrive pas à se développer assez ailleurs. Et... c'est un peu à cause de la guerre aussi. Si j'étais restée à la Conservatoire de Paris, je n'aurais pas eu cette liberté que j'ai eue en Tunisie. Donc, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance.
Vous êtes modeste.
Non, c'est de la chance. Non, mais j'avais l'esprit de gagner. Ça, ouais. Ça... Je ne sais pas si c'est une chance, mais c'est ça qui donne beaucoup de piment à la vie. Et...
Micheline Ostermeyer, je m'excuse de vous interrompre, mais je vois avec plaisir que vous conciliez toujours la musique et le sport.
Oh, plutôt, je fais surtout de la musique maintenant.
Vous avez abandonné complètement le sport?
J'espère que ce n'est que provisoire, mais actuellement, je ne peux plus en pratiquer de sport, spécialement l'athlétisme. Je suis un peu handicapée par, mettons, un lumbago chronique depuis un an, et alors je dois me reposer.
Vous avez fini assez jeune la compétition?
Mes dernières compétitions, c'était en 50. En 51, j'ai encore lancé une fois, j'ai encore gagné le titre, mais j'avais un claquage. Ce claquage, il a laissé des traces, et puis j'avais vraiment pas beaucoup le temps de m'entraîner, parce que j'étais en tournée de concert tout le temps. Finalement, ce qui m'a gêné le plus, ce sont les lits de l'INS.
L'Institut National des Sports, installé au Bois de Vincennes, où s'entraînent les athlètes de haut niveau.
Les lits étaient très très mauvais, ils étaient très creux. Maintenant, ils sont très bien, mais à ce moment-là, ils étaient très très creux. Et comme bon, j'y passais quelques mois par an, finalement, j'ai commencé à souffrir de la colonne vertébrale. On a fait des radios, on a dit « Ah ben, vous êtes mal faite. » Bon, ben, tant pis. Et alors, c'est ça qui a causé un lumbago chronique. Alors là, pendant 2 ans, il a fallu que je porte un lombostat. Puis après, j'ai refait du basket, mais j'ai plus refait d'athlétisme. J'avais une malformation congénitale. Donc, ne pas s'inquiéter si on a des trucs congénitaux qui vous ennuient, parce qu'on peut tout de même bien vivre.
Est-ce qu'à votre avis, le sport, c'est un art?
Oui, ça peut être un art. C'est de toute façon un art de beauté. Parce que vraiment, les athlètes sont magnifiques. Et les gestes sont toujours très épurés. Donc, ils sont très beaux. Comme ça demande un énorme travail maintenant pour arriver au haut niveau. Et c'est comme les arts aussi. Il faut beaucoup travailler. Dans l'esprit, je pense que bien que ça soit maintenant rétribué, etc., c'est tout de même parce qu'on se donne à fond. Au moment où on doit donner le maximum, on y va de toute son âme et son cœur. Autrement, je suis sûr qu'on ne réussirait pas. Donc, c'est comme l'art, ça aussi.
Vous continuez à jouer?
Du piano, oui, je viens de donner 3 concerts. Là. Et bah, par contre, le sport, évidemment, j'essaie de marcher de temps en temps. Je dis j'essaie parce que... Je suis un peu paresseuse, cette année, je fais toute la journée au piano. Mais enfin, c'est indispensable. Non, je suis toute seule, je ne peux même pas jouer au ping-pong. Enfin, bref. Alors, il n'y a plus d'amusement du côté physique. J'étais donc à New York la semaine dernière et ça s'est passé assez curieusement. La seconde nuit, j'étais à l'hôpital. Parce qu'après ma première nuit, je me suis réveillée avec une migraine atroce, des vomissements. J'ai dû passer la nuit à l'hôpital, ils ne voulaient plus me lâcher, ils voulaient me garder 4 jours, comme si j'avais traversé l'Atlantique pour rester 4 jours à l'hôpital. J'ai dit, moi ça suffit, je m'en vais. À 3h du matin, en chemise de nuit, je me suis retrouvée dans les rues de New York pour trouver un taxi. Ma fille était avec moi. Et le lendemain, j'étais très bien.
Vous avez une nostalgie de cette époque?
Oui, bien sûr. Ça, c'est, bien sûr. Il y avait la gaieté de l'équipe de France. Il y avait une chaleur, une amitié, une fraternité. Et puis, enfin, c'était beau aussi les défilés parce qu'on était par pays. Alors, à côté de nous, c'était la Finlande. Et les garçons étaient superbes, très grands. Moi, j'aime bien les hommes grands parce que je suis très grande. Oui, alors ça, c'est merveilleux. Tout le monde était passionné. Tout le monde voulait gagner. C'est merveilleux la communication qu'il y a entre individus par le sport. Et c'était ça aussi à Londres.
Sans indiscrétion, vous avez quel âge?
Eh bien, j'ai 75 ans, mais je dois dire qu'au point de vue santé, j'ai une forme formidable. Et puis le moral aussi. Alors, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors...
Micheline Ostermeyer est toujours en route. Elle donne des récitals à travers la France, à travers le monde. Merci de la rencontre, madame.
Merci aussi à Christian-Denis Lecèvre, à Nicolas Boulnois et Céline Desroches de l'INA.
Vous venez d'entendre Micheline Ostermeyer au micro de Joël Spindel et Denis Soula sur Radio Bleu le 4 avril 1999.